Bien, bonsoir. Merci d'être venus très nombreux ce soir donc à cette conférence, malgré le beau temps. Donc je vais faire une intervention d'environ 45 minutes, puis ensuite on aura une série de questions et de réponses autour donc de la personnalité de l'émir Abdelkader, de celui qu'on appelle l'émir Abdelkader. Cette conférence s'inscrit dans un cycle général sur les grandes figures de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, bien entendu. Alors, la vie mouvementée d'Abdelkader, l'homme qui a tenu tête aux armées françaises longtemps, de 1832 à 1847, épouse l'histoire compliquée de l'Algérie et de la France, de l'Orient et de l'Occident. Là, il y a un petit peu de Larsen. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Moi, j'ai un Larsen. Vous avez du Larsen? J'ai un truc qui me revient. Alors, cette histoire épique tient aussi à l'évolution du regard porté par les intellectuels, par les historiens, sociologues, anthropologues, français et algériens, sur ce personnage hors du commun. À l'accueil confidentiel du temps colonial, a succédé, comme on le sait par exemple en Algérie, le trop-plein des hommages de la pré-indépendance. Il faut dire qu'en Algérie, en l'absence d'un père, entre guillemets, issu de la guerre livrée contre la France, sa présence historique a été, de manière assez classique et légitime, survalorisée, étudiée par ses rôles de combattant, permettant précisément toute une série d'étiquettes qui, selon moi, ont occulté en grande partie les écrits véritables touchant aux religieux notamment et à la poésie, à la philosophie. L'émir Abdelkader occupe donc l'ensemble de l'espace dévolu traditionnellement aux grandes figures du nationalisme, notamment bien sûr du nationalisme algérien, reléguant dans l'ombre la grande majorité, même on peut dire la quasi-totalité, des autres personnages qui ont combattu la présence française en Algérie, notamment au XIXe siècle, puisqu'il s'agira bien sûr d'une histoire du XIXe siècle. Abdelkader occupe cette place décisive d'autant plus facilement que le mouvement indépendantiste, comme on le sait, algérien, allait le placer bien sûr au centre de ses combats politiques pour sa légitimation dans la lutte livrée contre la colonisation française. Je voudrais d'abord dire en quelques mots qui fut ce personnage, Abdelkader, pour suivre, essayer de suivre ensuite son cheminement, la postérité de ses combats, dans les mémoires françaises et les mémoires algériennes, avant comme après 1962. Alors tout d'abord, quelques aspects sur l'itinéraire de ce combattant. Celui qu'on appelle donc l'émir Abdelkader est né dans l'ouest algérien, près de Mascara, près d'un village près de Mascara, le 6 septembre 1808. Il est le troisième enfant d'un personnage très important, d'un chef de confrérie, Mahiadine, qui a lui-même combattu les troupes françaises dès les premières incursions dans l'ouest algérien, dès 1830-31. Il apprend les sciences religieuses, la langue et la littérature arabe, les mathématiques, l'astronomie, l'histoire et la philosophie. C'est un philosophe fondamentalement qui s'imprègne des leçons de Platon, d'Aristote, Al-Razali, Ibn Khaldoun, qui lui sont d'une lecture tout à fait familière. Il est à peine âgé de 24 ans, donc il est très jeune, lorsqu'il est présenté par son père, le 27 novembre 1832, aux tribus, les tribus de Hachem Ben Imar, où il est proclamé émir, c'est-à-dire commandeur des croyants, qui lui confère un pouvoir temporel et une autorité spirituelle. Commence alors pour lui une longue période marquée par son combat contre les Français, contre l'occupation française, et son premier contact militaire, guerrier, a lieu dès 1832 devant Oran. Très vite convaincu de l'insuffisance de ses forces, il opte pour une stratégie astucieuse de harcèlement tout en se préparant à un compromis politique pour pouvoir organiser, asseoir son armée. En 1834, c'est-à-dire 2 ans seulement à peine après le début des hostilités, il signe son premier traité de paix politique avec le général Desmichel et obtient par là même la souveraineté sur ce que l'on peut considérer l'ensemble de l'Oranie, excepté les grandes villes comme Oran. Dans l'esprit des autorités militaires françaises, Abdelkader apparaît alors comme un allié susceptible de sécuriser l'arrière-pays et d'empêcher les incursions des tribus arabes sur les plaines côtières. Mais de son côté, l'émir, lui, décide de mettre à profit cette trêve pour jeter les bases d'un État où les diverses tribus et confréries, qui par parenthèse n'avaient pas réussi à être unifiées sous l'Empire ottoman, se rallieraient à lui dans la perspective de bouter les forces françaises hors d'Algérie. C'est ainsi qu'il obtient l'aide des troupes françaises pour soumettre la même année son rival, Mustapha Ben Smaïl, et il arrive par conséquent, en jouant habilement et politiquement, à réunir autour de lui, autour de son nom, l'ensemble des tribus de cette région. Mais la trêve ne dure pas et la guerre reprend en 1835 et il va alterner pendant 2 ans les victoires, les défaites, jusqu'à être battu par Bugeaud en 1836, après la défection d'ailleurs de plusieurs tribus de l'Ouest algérien. Cette défaite, lui ouvre la possibilité, disons, d'une réflexion politique sur ses capacités à vaincre tout seul sur le simple plan militaire. Il lui faut donc, par conséquent, sans pratiquer une politique de compromission ou de reniement de soi, il lui faut par conséquent se montrer habile politique en recherchant des appuis politiques dans toutes les couches de la société, dans tous les clans, tribus ou familles. Et précisément, en 1837, la signature du traité de la Tafna scelle un statu quo qui lui permet encore une fois non seulement de se réorganiser, mais aussi d'étendre sa domination politique, non seulement sur l'ouest algérien, mais jusqu'au centre de l'Algérie actuelle et jusqu'à la frontière marocaine actuelle. Durant 2 années, il va administrer ce territoire, émettre des décrets et des lois, tout en veillant à ce que ses troupes, qui constituent désormais une véritable armée régulière, puissent rester opérationnelles. Il va donc, par conséquent, pratiquer toute une série de guérillas, une guerre de guérillas, d'escarmouches, qui vont précisément le conduire à combattre dans ces années 1839-1841, où il reprend le combat, estimant que le traité de la Tafna est caduque, dans la mesure où le général Bugeaud, contraint tout un certain nombre de tribus algériennes, par toute une série de mesures de coercition, à des mesures de saccage, des mesures défensives, etc. Dans le même temps où l'émir reprend par conséquent son combat, la France efface les hésitations qui existent depuis la prise d'Alger de 1830. On le sait, les Français ont longtemps hésité entre 2 versions, celle de l'occupation restreinte et celle de l'occupation totale de l'Algérie. Cette hésitation va durer presque 10 années et est le fruit de compromis politiques, de batailles au sommet de l'État français. La France efface donc les hésitations nées de cette prise d'Alger lorsqu'elle décide de nommer Bugeaud, gouverneur général d'Algérie, qui décide, lui, politiquement, la conquête totale du pays à partir de 1841. Sous l'impulsion de Bugeaud, les effectifs militaires passent alors de 60 000 hommes en 1840 à près de 110 000 hommes en 1847. Pendant toutes ces années où Bugeaud dirige l'armée française, eh bien, se déroule une guerre sans merci, d'une violence inouïe, marquée par plusieurs atrocités, notamment les tristement célèbres enfumades du colonel Pélissier, qui enfume et asphyxie 1 millier d'hommes et de femmes de la tribu des Zouled Riah, qui se sont réfugiés dans des grottes. Ces épisodes notamment ont été racontés dans toute une série d'ouvrages, ceux en particulier de Charles-André Julien, de Mostefa Lachraf, ou les lettres de l'officier Saint-Arnaud qui ont été publiées par François Maspero en 1994. À ce propos d'ailleurs, nous pouvons citer un extrait des lettres du duc d'Aumale, qui a été l'adversaire principal de l'émir Abdelkader, qui raconte précisément, dans un extrait bien sûr que je vous citerai là de ces lettres, la guerre que la France décide de mener dans ces années 1842-1843. Dans une lettre datée du 22 mai 1841, le duc d'Aumale raconte Je cite « Pendant que la cavalerie donne la conduite à l'ennemi, l'infanterie s'arrête pour incendier les gourbis, gaspiller l'orge, le blé, qu'on trouve en abondance dans les silos, et qu'on ne peut emporter faute de transport. Pendant que je m'occupais de cette œuvre de destruction, des cris de joie attirent mon attention d'un autre côté. Je vois arriver des bœufs, des prisonniers ramenés. Chemin faisant, je rencontre des prisonnières. Il y en avait une ou deux vêtues et très jolies. Le reste était atroce. Une d'entre elles avait le bras cassé par un coup de feu, et ainsi que plusieurs autres. » Bon, je peux continuer à citer des extraits de Saint-Arnaud, du duc d'Aumale, etc., qui prouvent la cruauté, la dureté de cette guerre. En face donc de l'armée française, l'émir Abdelkader décide de s'organiser sur le plan militaire et sur le plan politique, en mettant en place ce que l'on a appelé la smala, la cour, ce terme qui descend directement d'un terme lui-même produit de ce qu'on appelle le marzen, c'est-à-dire l'organisation politico-administrative de ceux qui sont autour de celui qu'on appelle un chef d'État, donc un émir. Et donc on estime à des milliers d'hommes et de femmes le chiffre de ce qu'on a appelé cette smala d'Abdelkader, que l'émir lui-même a été jusqu'à estimer à 60 000 personnes. En réalité, cette population qui suit l'émir Abdelkader varie suivant les époques et les circonstances. Elle se déplace selon les ordres de l'émir Abdelkader parce qu'elle est, disons, en situation d'attaque, de combat, de flux et de reflux. Elle est donc, pour l'armée française, difficile à attaquer et à saisir. Elle va de point d'eau en point d'eau, elle va de village en village, de ville en ville, sans plan établi à l'avance. Et c'est elle que Bugeaud, cette smala, demande au duc d'Aumale de pourchasser. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que cette smala d'Abdelkader, où sont entreposés les milliers de livres en arabe de l'émir Abdelkader, lui-même, comme je le disais tout à l'heure, intellectuel, philosophe et poète, cette smala d'Abdelkader est défendue par 5000 soldats, dont 2000 cavaliers, qui défendent, disons, cette smala d'Abdelkader. Alors la prise de la smala d'Abdelkader, le 14 mai 1843, le duc d'Aumale va s'emparer de cette smala d'Abdelkader, cette capitale politique, en fait, qui va affaiblir politiquement, bien sûr, l'émir Abdelkader, et raconté aussi par le duc d'Aumale, et qui écrit la chose suivante. « Outre des sommes considérables d'argent, on prit encore tous les burnous rouges qui devaient investir des agas ou des caïds, des gandouras destinés à des gens de loi, des armes de prix, un grand nombre de riches vêtements, des manuscrits précieux, des livres, des bijoux, etc. Nous avons enlevé une foule d'esclaves noirs des deux sexes, plusieurs milliers d'ânes, quelques centaines de chameaux, des chevaux, des juments, etc. Malheureusement, nous étions si peu nombreux et tous si fatigués qu'il me fut impossible d'apporter dans la répartition de ces prises tout l'ordre que j'aurais voulu y introduire. Je ne puis faire réserver pour l'État que quelques barils de poudre et des troupeaux considérables, mais tous ces bestiaux, quoique en fort bon état, étaient déjà très fatigués, et la longue marche que la rareté de l'eau nous a forcés de faire en en fait perdre une grande quantité pendant le retour. En faisant la part de l'inévitable gaspillage, je n'hésite pas à dire que nous n'avons pas ramené la moitié. Il a pourtant été versé 15 000 têtes de bétail à l'administration française par la prise de la smala d'Abdelkader. On a par conséquent, à travers cette prise de la smala d'Abdelkader, un véritable affaiblissement politique de l'émir qui doit franchir la frontière et se réfugier au Maroc. Et cet épisode de l'émir Abdelkader qui est mis hors la loi en Algérie par les troupes françaises, obligé de se réfugier en Maroc, va susciter bien sûr, a posteriori, toute une série de débats à caractère à la fois historique mais aussi politique et idéologique, dans la mesure où c'est à partir du Maroc que l'émir essaye de se réorganiser sur le plan militaire et sur le plan politique, mais à partir de la bataille d'Isly, notamment en 1844-45, la pression française sur le Maroc, sur le marzen marocain, devient si forte qu'elle oblige précisément l'émir Abdelkader à demander à se rendre, non pas aux autorités françaises, mais à se rendre vers l'Orient, c'est-à-dire de quitter le Maroc où il ne peut plus, disons, faire face à la pression marocaine et aux troupes françaises. Et donc, il demande au général Lamoricière de pouvoir partir soit en direction de la Mecque, soit en direction de Saint-Jean-d'Acre, soit en direction d'Alexandrie. Le général Lamoricière accepte ce départ, mais Abdelkader, comme on le sait, ne sera pas dirigé vers ces destinations-là, mais il sera dirigé directement comme captif, donc comme prisonnier, vers la France. Et à ce propos, l'émir lui-même va écrire la chose suivante, une lettre qu'il enverra encore, cette fois-ci toujours au duc d'Aumale, pour expliquer comment, en fait, c'est un marché de dupes, puisqu'il les pensait, il estimait qu'il allait se rendre en Orient et qu'en fait, il va être dirigé, comme on le sait, vers la France. Et il écrit la chose suivante. 21 jours se sont écoulés et je suis arrivé à Toulon. On ne m'a communiqué ni ordre ni nouvelles. Nous restons dans l'inquiétude. Je sais qu'il se dit contre moi des paroles mauvaises et cependant je n'ai livré ma personne, mes femmes et mes enfants en vos mains et ne les ai placés sous votre ombre que parce que je vous savais homme de parole complète et de promesses sûres, que personne ne pouvait retirer votre parole et la contredire après que vous m'auriez donné la manne. Comment consentez-vous à ce qu'il soit fait contre votre parole qu'elle ne soit pas respectée? Est-ce possible? Le plus faible des hommes n'y consentirait pas. Mais vous, vous êtes seigneur, fils de seigneur, chef de peuple, je fais appel à vous, à votre bonté, à votre noblesse, à vos qualités, pour que vous écriviez au sujet de mes affaires au ministre. Faites que je puisse me rendre au plus tôt à la Mecque, où j'ai désir demeurer jusqu'à ma mort. Signé donc l'émir Abdelkader. Et en fait, comme on le sait, l'émir sera donc emprisonné au fort Lamalgue à Toulon, où il arrivera avec environ une centaine de ses compagnons, le 28 avril 1848. Il y restera d'abord près de 6 mois. On sait que dans la diligence qui le conduit de Sète au Béarn, à Pau, il a ces mots, je le cite, « Je vois ces plaines verdoyantes, ces vergers, ces forêts, ces fleuves et ces rivières, tant d'abondance. Quel besoin ont donc les Français d'occuper mon pays de sable et de rochers ?» Durant toute sa captivité à Pau, du 29 avril au 3 novembre 1848, il ne bouge pas de ses appartements du château et refuse la promenade en signe de protestation de sa captivité. Il dit « Je suis en deuil » et un arabe en deuil ne quitte pas Satan, « Je suis en deuil de ma liberté ». Et c'est par conséquent un homme de plus en plus affaibli et de plus en plus seul qui va progressivement attirer toute une série de curieux en France, notamment d'écrivains ou autres, ou d'historiens, et commence à se forger en France l'image romanesque du guerrier vaincu et qui va attirer donc les curieux en quête d'un frisson romanesque. Il faut dire qu'à Pau, Abdelkader ne refuse pas les visites et au cours de ses entretiens avec un certain nombre de visiteurs, il ne cesse de rappeler à la France son manque de parole et d'en souligner la gravité. Le 8 novembre 1848, de peur qu'il s'échappe et ne franchisse la frontière vers l'Espagne toute proche, il est transféré au château d'Amboise. Il est libéré en 1852 et reçu à Paris par Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, qui a un projet qui est dans l'optique de son projet de royaume arabe, songe peut-être à en faire un vice-roi. De retour à Bordeaux, Louis-Napoléon Bonaparte s'arrête à Amboise pour annoncer à l'émir la fin de sa captivité. Le 30 octobre, il lui accorde donc une audience et le 11 décembre 1852, ce qui reste de la petite communauté algérienne, car un certain nombre d'entre eux ont décédé et ont été enterrés d'ailleurs à Pau et à Amboise, d'ailleurs sont toujours là, présentent les tombes des compagnons de l'émir et de ses enfants, qui sont toujours à Pau et à Amboise, la petite communauté algérienne réunie autour de l'émir quitte définitivement le château d'Amboise pour Marseille, où elle s'embarque vers Constantinople. Abdelkader ne reviendra en France que le 8 septembre 1855 et partira ensuite définitivement vers Damas le 6 décembre 1855, où il s'établira. C'est donc à Damas qu'il va financer et travailler sur la première édition de l'œuvre majeure de son maître spirituel, Ibn Arabi, le titre « Les Illuminations de la Mecque ». Il consacre sa vie à la méditation, à la lecture, à l'enseignement spirituel qu'il donne tous les jours. L'écrivain et historien anglais Churchill, un homonyme, donc un autre personnage célèbre, qui lui a rendu visite, raconte la journée de l'émir Abdelkader dans un ouvrage qui est paru en 1867. Je le cite. Il se lève 2 heures avant l'aube et s'adonne à la prière, à la méditation religieuse jusqu'au lever du soleil. Il se rend alors à la mosquée. Après avoir passé une demi-heure en dévotion publique, il rentre chez lui, prend une rapide collation, puis travaille dans sa bibliothèque jusqu'à midi. L'appel du muezzin l'appelle une nouvelle fois à la mosquée où sa classe est déjà rassemblée attendant son arrivée. Il prend un siège, ouvre le livre choisi comme base de discussion et lit à haute voix. Constamment interrompu par des demandes d'explications qu'il donne en ouvrant ses trésors multiples d'études laborieuses, d'investigations, de recherches qu'il a accumulées tout au long de son existence agitée. La séance dure 3 heures, après quoi il se retire pour se reposer. Mais ce qui va faire la grandeur et la notoriété de l'émir Abdelkader à Damas, c'est le fait que du 9 au 14 juillet 1860, de violentes émeutes éclatent contre les chrétiens. Aidé par ses fils et par ses compagnons, Abdelkader s'emploie à protéger la communauté chrétienne et son action permettra de sauver de manière indiscutable des milliers de personnes qui étaient vouées à une mort certaine. Le 20 janvier 1863, il part pour un long pèlerinage de 16 mois à La Mecque et à Médine. Le 5 juin 1864, il arrive à Suez. À 21h, ce 18 juin 1864, il est accueilli par la loge des pyramides, l'Orient d'Alexandrie, qui l'initie officiellement à la franc-maçonnerie pour le compte de la loge Henri IV à Paris. C'est là qu'il reçoit donc une initiation de type maçonnique à Suez. À l'invitation de Louis-Napoléon, il va effectuer son 3e et dernier voyage à Paris en 1867 pour visiter l'exposition universelle qui est organisée au Champ de Mars à Paris. Le 16 novembre 1869, il revient à Suez parce qu'il est présent à l'inauguration officielle du canal de Suez. Il est un des représentants principaux de la religion musulmane dans cette inauguration. Témoignant en permanence d'un intérêt tout particulier pour les innovations techniques, il adhère au projet donc de construction du canal de Suez et y défend avec une très grande conviction cette initiative porteuse de modernisation pour toute cette région du Moyen-Orient et symbole, selon lui, de trait d'union qui relie l'Orient et l'Occident. Je le cite dans une lettre qu'il a adressée à Ferdinand de Lesseps. Il écrit donc « Aucune personne intelligente ne peut mettre en doute que votre œuvre ne soit en même temps d'une utilité générale dont les avantages rejailliront sur la plupart des habitants de la Terre d'une extrémité à l'autre. Nous prions le Très-Haut de vous en faciliter l'achèvement et de réaliser la jonction des eaux. » Dans le même temps, il entretient plusieurs correspondances avec des réformateurs religieux, des chefs musulmans du Caucase et de l'actuelle Tchétchénie. Il se montre attentif à tous les savoirs et garde une mélancolie, mais sans amertume, à l'égard des promesses françaises, de son passé combattant et de sa défaite. Il adopte une démarche de réflexion critique en direction de la double France, à la fois France coloniale et siège des Lumières, entre guillemets. Celui que l'on va appeler en France du seul prénom d'Abdelkader prend d'ailleurs toujours soin de distinguer, plus même de s'approprier le savoir de l'autre. En 1858, il écrivait ainsi « Les savants français et ceux qui les ont imités se sont occupés de mettre en œuvre cette force, celle de l'application pratique, et de lui faire produire des résultats. Ils en ont tiré des arts étonnants et des avantages extraordinaires qui leur ont permis de surpenser les anciens dans ce domaine et de rendre les modernes conscients de leur retard. Il faut donc continuer à apprendre. » Durant les dernières années de sa vie, il poursuit la rédaction d'écrits mystiques inspirés du soufisme dans des méditations regroupées dans le livre des Haltes et ses poèmes métaphysiques. On retrouve les thèmes chers à son maître Ibn Arabi, l'unité divine et le rattachement amoureux, du pur amour et de l'adoration parfaite comme expression de l'amour in divinis. Et comme le note Geneviève Simon Kédis dans sa biographie de l'émir, eh bien, il a été celui qui a tenté sans arrêt de rattacher ses unités divines sur attachement amoureux. Le 25 mai 1883, Abdelkader, après 25 jours de maladie, s'éteint près de Damas, à 4 km de Damas, dans sa résidence de Douma. Il sera inhumé à côté de son maître spirituel, donc Ibn Arabi. Comment maintenant cette mémoire, ce personnage, dont j'ai très rapidement retracé bien sûr l'itinéraire, comment ce personnage a pu ensuite exister, vivre, se redéployer dans les mémoires algériennes et dans les mémoires françaises? Eh bien, la mémoire de l'émir Abdelkader, bien sûr, n'a jamais cessé de disparaître des mémoires familiales algériennes par cette transmission orale, bien sûr, qui a existé tout au long des années 1880, 1900, 1910, etc. Mais plus fondamentalement, le retour de mémoire s'est opéré par l'action de son petit-fils, celui qui sera beaucoup plus connu sous le nom de l'émir Khaled, le petit-fils de l'émir Abdelkader, qui était officier dans l'armée française, mais qui se lance dans la campagne électorale de 1919. À la suite des lois Jonnard, un certain nombre de musulmans avaient la possibilité de se présenter en ayant, bien sûr, obtenu la nationalité française. Et il déclare « Je vous présente une liste musulmane. Tout bon musulman ne doit pas voter simplement pour les Français. N'oubliez pas que vos parents ont tous marché jadis au premier signal de mon grand-père, l'émir Abdelkader. » Il est élu triomphalement aux élections municipales d'Alger à la tête d'une liste comprenant des personnes hostiles à la naturalisation française. Et naturellement, il attire sur lui l'attention de l'administration coloniale française. Certains considèrent même que son action peut être considérée comme celle d'un des grands pionniers du nationalisme algérien contemporain moderne. Le fait est, c'est que l'action de l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abdelkader, fait revenir sur le devant de la scène publique le souvenir de son illustre grand-père. Et la renommée de ce commandeur des croyants, son émergence dans l'arène politique, indique par conséquent le retour d'une mémoire enfouie et jamais disparue. Il y a un autre témoignage de cette même époque, de 1920, et les témoignages venant d'Algériens musulmans sont très rares de cette époque, des années 1920, eh bien, il y a les réflexions d'un jeune Tlemcénien de 1920 qui porte pour nom Messaleh Hadj, qui, dans ses mémoires, décrit la sensation que lui procure l'arrivée de l'émir Khaled dans sa ville natale de Tlemcen en 1922. Je cite. « Un beau matin de l'été 1922 nous apprime une nouvelle sous le burnous selon laquelle l'émir Khaled, petit-fils du célèbre émir Abdelkader, allait venir faire une conférence à la mairie de Tlemcen. La date et l'heure de l'arrivée de ce grand personnage n'étaient pas précisées. Les amis qui nous communiquaient cette nouvelle, dont l'importance n'échappait à personne, nous disaient sous forme de recommandation « Attention, prenez garde et ne dites cette nouvelle qu'à des amis sûrs et sérieux. » Cette façon de nous communiquer la nouvelle et la recommandation augmentèrent notre curiosité et notre enthousiasme, car la famille de l'émir Abdelkader jouissait encore d'un très grand prestige dans toute l'Algérie. L'impact donc de Khaled dans l'Algérie coloniale des années 20, c'est donc d'abord les retrouvailles avec le passé de son grand-père, du passé combattant, qui va se retrouver notamment dans toute la littérature politique des premières organisations indépendantistes algériennes, notamment l'Étoile nord-africaine à partir de 1926, le Parti du peuple algérien en 1937, bien entendu, et dans toutes les déclarations du MTLD, du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, à partir de 1946. Il y a donc par conséquent, dans la plupart de ces textes, qui sont, disons, très, très nombreux, il y a par conséquent toute une série de références, toute une série d'allusions, où comment, sous l'histoire officielle française, coloniale, continue de circuler une autre histoire privée et familiale. Par exemple, dans un autre de ses textes, de ses mémoires, Messali écrit la chose suivante. « Quant à l'école, nous abordions l'histoire de l'Algérie, bien que d'une manière restrictive et spéciale, on était bien obligé d'évoquer la grande figure de l'émir Abdelkader, son courage, ses grandes capacités militaires et son passé historique. D'ailleurs, nous ne comptions pas sur ce que disait l'instituteur à propos de l'histoire de notre pays, de nos héros, des insurrections, de la résistance algérienne, etc., laquelle a duré dans le sud algérien et au Sahara, au-delà de la Première Guerre mondiale. Mais la présence de l'émir Khaled prenait à chaque fois, dans la vie politique, tout son sens historique et politique. On peut donc dire que l'image de l'émir Abdelkader, dans la mémoire collective, des Algériens musulmans en particulier, permet très tôt, dès les années 1920-1930, permet très tôt la définition d'une appartenance commune. Les Algériens, qui, à la suite de l'émir Khaled, se lancent dans l'action politique au début des années 1920, retiennent de l'émir Abdelkader qu'un seul aspect, celui de l'homme debout et qui résiste. Dans ce moment d'éveil du nationalisme indépendantiste, il s'agit donc exclusivement de la transmission d'une mémoire active, d'une mémoire combattante, celle qui résiste donc à la présence française Et dans cette, par conséquent, dans cette élaboration, dans cette fabrication, dans ces imaginaires, c'est surtout de la première partie de sa vie, celle de la résistance à la conquête, à l'insurrection, à la résistance, dont il est question, et pas de la seconde partie de sa vie, c'est-à-dire la seconde partie de sa vie où là, quand il était à Damas ou ailleurs, eh bien, il avait effectivement soit été ou versé dans les études religieuses ou dans les études mystiques du soufisme ou dans le mysticisme, y compris celui de la maçonnerie. On a donc par conséquent une situation où l'émir Abdelkader, par conséquent, devient une figure de référence principale, une figure de référence centrale dans tous les discours politiques des mouvements nationalistes algériens. J'en veux pour preuve encore, notamment le fait que, en citant toute une série de tracts, de programmes, de journaux, où l'émir Abdelkader rejoint au panthéon de la mémoire algérienne des années 1930, eh bien, un autre personnage très important, qui est Mohamed El-Moukrani, le héros de l'insurrection de 1871, bientôt rejoint dans les années 1920-1925, celui, le nom de l'émir Abdelkrim, qui avait tenu tête aux puissances européennes dans le RIF. Et donc l'émir Abdelkader va inaugurer le panthéon des personnages célèbres dans l'histoire du Maghreb, avec un rappel historique incessant, comme je le disais, un rappel historique incessant, des références historiques incessantes à celles de l'homme résistant, de l'homme debout, de l'homme qui refuse précisément de, disons, de plier devant la présence française. Et cette, disons, cette renommée de l'émir Abdelkader va trouver une nouvelle source, disons, d'encouragement dans les mémoires collectives après 1945, notamment après les massacres de Sétif de 1945 en Algérie, où la première conférence, je le signale ici simplement pour mémoire, mais la première conférence qui sera faite par le grand écrivain algérien Kateb Yassine, qui lui-même avait vécu les massacres de Sétif, eh bien, la première conférence de Kateb Yassine sera précisément consacrée le 24 mai 1947 à la tribune de la Société des savants de Paris, sera une conférence qui sera consacrée précisément à la vie de l'émir Abdelkader. Ce texte a été publié plusieurs fois, d'ailleurs, le texte de Kateb Yassine sur l'émir Abdelkader a été plusieurs fois publié en Algérie. Donc, par conséquent, lorsque commence la guerre d'indépendance algérienne de 1954, il est bien évident que la figure de l'émir Abdelkader est déjà très installée dans les imaginaires politiques, et on retrouvera sa trace, notamment dans toute la littérature nationaliste, notamment celle du FLN, de Al-Mujahid, à partir des années 56-57, etc. Alors, comment en face, du côté français, l'émir est-il présenté? Bien entendu, c'est là, c'est un peu classique, c'est ce qui fait toute la paradoxe, la contradiction de l'histoire franco-algérienne, c'est que sur un même personnage, sur un même événement, sur des mêmes situations, eh bien, les regards sont diamétralement opposés, et même, on pourrait presque dire, contradictoires, puisque du côté français, en particulier dans les manuels scolaires de la France républicaine, à partir de 1880, eh bien, le personnage qui domine du côté français, c'est celui qui est dans la seconde partie de sa vie, c'est-à-dire après 1852, 1855, etc. C'est-à-dire de celui, dans le fond, qui va accepter, entre guillemets, cette présence française selon le discours officiel français, qui recevra un certain nombre de décorations et qui sera par conséquent considéré comme un ami de la France dans la seconde partie de sa vie. La première partie, par contre, étant naturellement très largement minimisée. Lorsqu'on lit, par exemple, les manuels scolaires proposés aux écoliers français, par exemple, de ce qu'on appelle le cours moyen supérieur pour le certificat d'études des éditions Hachette, voilà comment est présenté l'émir Abdelkader. Le plus grand adversaire de Bugeaud est Abdelkader. C'est un homme loyal, pieux et courageux. Vaincu par Bugeaud, il se réfugie au Maroc, mais ses troupes sont défaites au combat d'Isly. Abdelkader revient en Algérie, abandonné par tous. Il se rend au duc d'Aumale en 1847. Il termine sa vie en Syrie, où il devient l'ami fidèle de la France. C'est donc l'ami fidèle de la France qui sera par conséquent des années 1880 jusqu'aux années 1950-60, c'est-à-dire jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, qui sera par conséquent célébré et commémoré. En mai-juin 1930, lors de l'exposition du centenaire de la conquête de l'Algérie, plusieurs lettres, autographes et objets appartenant à Abdelkader sont présentés au public sous une forme extrêmement élogieuse. Le 15 octobre 1949, le gouverneur général d'Algérie de l'époque, Nejlène, par parenthèse s'est rendu célèbre en organisant un certain nombre de trucages d'élections, inaugure une stèle qui porte pour titre « Abdelkader, l'ami des Français ». Il y a donc incontestablement, à cette époque-là, dans les années 1930-1950, une volonté de réappropriation du second Abdelkader, celui de l'exil et pas, bien sûr, celui de la résistance. Et donc, il y a comme une inversion du regard qui s'opère à ce moment-là. Et nous en arrivons, pour avancer et pour terminer, à la postérité de l'émir Abdelkader, mais cette fois-ci après l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire après 1962. Après l'indépendance, l'émir Abdelkader va recevoir, bien sûr, un hommage très important en Algérie, puisqu'il va être présenté comme une figure mythique qui a œuvré à la réalisation de l'unité nationale algérienne. Il reçoit les éloges de ce qu'on appellerait en langage historien de la géographie, qui va se déployer dans toute une série de textes. Ce serait trop long de citer tous les textes qui sortent en Algérie, notamment dans les années 70, mais celui qui est présenté comme non seulement l'homme précurseur de l'éveil du nationalisme moderne, mais celui qui a été le précurseur de la construction de l'État algérien. Et dans cette situation, dans les années 70-80, seul compte la résistance, c'est-à-dire la résistance militaire, guerrière, de l'émir Abdelkader à la présence française. Mais les choses évoluent en Algérie, puisque dans les années 80, au moment du centenaire de la mort de l'émir Abdelkader, c'est-à-dire en 1983, d'autres aspects de sa personnalité sont révélés, touchant notamment à son penchant vers le mysticisme pratiqué à la fin de sa vie. Par exemple, on peut lire l'article suivant, sous la plume d'un journaliste algérien en 1984. « Cette année encore, de nouvelles sources ont été découvertes en Allemagne, en Angleterre, en Pologne, qui permettront, quand elles subiront l'épreuve de l'examen critique et de la confrontation, d'approfondir un portrait de l'émir Abdelkader et de révéler le pan obscur de ce que fut sa vie dans le Proche-Orient. Sur cette période, les historiens algériens n'ont pas été prolifiques. Dommage, car cette tranche d'histoire, si elle a été moins mouvementée, est elle aussi pleine d'enseignements. Elle nous montre, en tout cas, une vie partagée entre la méditation et la médiation, et dans les cas graves pour la vie des chrétiens, à l'intercession et à l'intervention démocratique. Elle nous montre Abdelkader abîmé dans la méditation, se réfugiant 3 mois de l'année dans une ferme des environs de Damas pour prier et adorer Dieu, au point que lorsque sa fille décédera, il ne s'absenta pas plus de 24 heures pour l'enterrer. Ces révélations sur l'attitude mystique ne vont pas, bien sûr, jusqu'à admettre à cette époque en Algérie les liens de discussion, simplement, que l'émir a pu entretenir avec la franc-maçonnerie, liens qui ont été mis en évidence, notamment par tous les travaux récents des historiens français dans les années 1990. Mais cette description ouvre sur un autre aspect de la postérité de l'émir dans les profondeurs de la société algérienne musulmane, touchant notamment à des pratiques superstitieuses autour de sa personne. Par exemple, dans un article d'un hebdomadaire très connu à l'époque en Algérie, qui s'appelait « Algérie Actualité », dans un article de juin 1983, on pouvait lire les choses suivantes à propos de l'émir Abdelkader. L'histoire est facilement mêlée à la légende et quelques vieilles personnes crédules affirment les vertus miraculeuses, la baraka, d'Abdelkader et de sa famille. Mais serait-ce là le seul travers de la naïveté populaire? C'est loin de la ville de Mascara, capitale de cette résistance, qui ne tomba définitivement aux mains des Français que très tard, que se trouvent toujours vivaces les lieux de vénération populaire. C'est dans la Guetna qu'est né en 1808 l'émir Abdelkader. Des vestiges y subsistent, mais c'est à Sidi Kadam même que se rendent les familles pour des ziyaras, pour honorer et implorer les walis, ancêtres de l'émir, et dont les nombreuses croubas s'élèvent, éparpillées dans le vieux cimetière rongé par les herbes, où s'accrochent sur les tombes anonymes des morceaux de tissu que les femmes qui désirent avoir un enfant y déposent. Dans ces zaouias, comme à la vieille ferme ayant appartenu à la famille de l'émir, près de laquelle la France a élevé à sa mémoire un monument, subsiste la mémoire confuse et pieuse, tenant autant de la culture que de l'histoire orale, transmise tant bien que mal de génération en génération. Mémoire populaire en bribes d'un passé lointain et proche, débusqué un peu partout à travers cette région. On pourrait donc dire, en conclusion, que, à la fois lettré du fin fond de l'Algérie, bien sûr, un de ceux qui ont jeté les bases d'un État algérien moderne, mais surtout et aussi un guerrier et un homme politique infatigable, celui qui aura été aussi un protégé, un ami de Napoléon III et de Ferdinand de Lesseps, a été à la fin de sa vie un grand mystique de l'islam moderne. Et cette figure, par conséquent, nous montre à la fois l'érudition du mystique, qui ont de quoi bien sûr le placer au centre du roman national algérien, mais celle aussi moderne qui veut et qui tente d'opérer la synthèse entre l'Orient et l'Occident, entre la résistance à l'autre et l'acceptation de ce qui peut venir de l'autre. Il est un homme de la médiation, de la méditation, à la fois rationaliste et métaphysique, prônant un islam d'ouverture et de réforme. Ses écrits spirituels et le rôle singulier du politique par rapport au religieux restent à redécouvrir, qui annoncent les temps présents du XXIe siècle. Le 4 juillet 1966, les restes de l'émir Abdelkader sont rapatriés en Algérie, se transfèrent peu après l'indépendance algérienne, témoignent par conséquent de cette volonté d'offrir à l'émir cette dimension nationale et cette dimension historique. Le 24 et 27 novembre 1992, le premier colloque international a été organisé en Algérie par la Fondation l'émir Abdelkader à l'université de Sidi Belabès, où j'ai participé d'ailleurs. Et on peut dire qu'un siècle et demi après les faits, la trace aussi de l'émir, pourquoi pas, peut revenir en France, réapparaître en France. Lors d'une visite au château de Pau que j'ai effectuée il y a quelques années, j'ai vu les petites tombes de ses enfants et de ses neveux morts et enterrés à Pau, toujours entretenues et fleuries par des mains anonymes et mystérieuses. Je vous remercie. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pourrez écouter aussi, réécouter cette conférence en podcast sur le site du musée du Quai Branly.
Oui, j'aimerais poser une question par rapport à la question qu'a posée Abdelkader sur son chemin vers Pau. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez apporter quelques tentatives de réponse sur cette volonté française d'envahir l'Algérie jusqu'au point de ne plus avoir d'interlocuteur en face, avec la violence qu'on connaît et les conséquences si dramatiques pour à la fois pour la France et puis pour l'Algérie, dans le sens où la résistance algérienne a continué longtemps, et c'était tout de même pas une conquête facile, on va dire.
Oui, enfin, en travaillant pour cette conférence sur l'émir Abdelkader, j'ai retrouvé donc une mémoire moi-même de cette histoire de la conquête française comme une sorte de première guerre d'Algérie, qui a été une guerre de conquête très 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 longue, puisqu'elle va durer pratiquement une vingtaine d'années. Donc c'est une guerre très longue, très dure, très cruelle, et qu'on a oublié, bien sûr, parce qu'on a le sentiment que les choses se sont passées presque, entre guillemets, naturellement dans cette installation française, avec notamment l'arrivée des Européens venant d'Italie, d'Espagne, de Malte, etc., dans les années 1850-60. Mais on a oublié effectivement que cette installation française a été extraordinairement difficile, extraordinairement cruelle et compliquée. Alors comment on peut expliquer cette volonté française d'aller vers l'Algérie ? Alors tout d'abord, ce qu'il faut dire, bon, c'est une question bien sûr qui nécessiterait en soi une conférence. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une tradition française vers le sud qui commence par l'expédition de Bonaparte en Égypte. Dans les années, naturellement, à la fin, après la révolution, enfin, au moment de la Révolution française. Et il y a ce regard porté vers l'Orient par les Français, ce qu'on appellera plus tard l'orientalisme, cette volonté, disons, de mettre un pied en Orient qui fascine, qui intrigue, et puis qui intéresse aussi pour ses richesses, bien entendu, mais qui intrigue et qui fascine aussi par tout simplement son histoire, sa civilisation, puisque lorsque Bonaparte part en Égypte, il va partir avec, comme on le sait, toute une série de savants, de mathématiciens, ce qu'on appellera plus tard, ce qu'Edouard Saïd a raconté très bien d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « L'orientalisme ». L'Algérie a intéressé Napoléon Bonaparte dès 1808, puisqu'il y a une première description précise des côtes algériennes par un personnage qu'on appelle le commandant Boutin, qui fait un relevé très précis, hein, une cartographie très précise de l'Algérie. Et d'ailleurs, ce sont les relevés du commandant Boutin qui seront utilisés au moment de l'arrivée française en 1830. C'est les mêmes cartes, les mêmes relevés, etc. Alors pourquoi l'Algérie intéresse la France? Parce que l'Algérie, à l'époque, naturellement, n'existe pas dans les frontières qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est évident. C'est une Algérie bellicale, c'est-à-dire qui appartient à l'Empire ottoman, qui jouit quand même d'une autonomie certaine, hein, des beys et des deys par rapport au pouvoir central de l'Empire ottoman. L'Algérie intéresse parce qu'elle a une façade méditerranéenne très longue, très importante, qui permet de contrôler sur le plan politique la Méditerranée dans une situation de rivalité avec la Grande-Bretagne. La grande question, c'est le contrôle de la Méditerranée face à la Grande-Bretagne. C'est le grand ennemi. Le grand ennemi de la France de l'époque, c'est la Grande-Bretagne, c'est les Britanniques. Donc il faut contrôler la Méditerranée. Les Britanniques regardent vers l'Égypte, les Français regardent vers l'Algérie, bien entendu, très tôt, par conséquent, hein, dès le début du XIXe siècle. Et puis il y a aussi cet épisode qui servira de prétexte plus tard à la conquête de l'Algérie, qui est le fait que l'Algérie avait prêté un certain nombre d'argent, enfin une certaine somme d'argent, au gouvernement révolutionnaire français des années 1790-1792. Cette somme n'avait pas été remboursée. Et il y avait par conséquent aussi la convocation par le Dey d'Alger en 1827, du consul général de France, le consul Deval, en 1827, qui exigeait le remboursement de cette dette, et comme on le sait, ça c'est dans tous les manuels scolaires français, le célèbre, disons, coup d'éventail de 1827, qui donc fournit le prétexte du départ donc, vers la conquête de l'Algérie. En fait, il faut savoir que si la France, à mon avis, regarde vers l'Algérie, c'est pour plusieurs raisons, et décide de conquérir l'Algérie à cette époque, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait que la France est confrontée à des troubles politiques intérieurs très grands. Nous sommes très proches de la fin de l'Empire napoléonien, 1815, et l'armée française de cette époque-là est une armée extrêmement turbulente. Donc il faut occuper cette armée vers d'autres terrains, vers d'autres territoires. Ainsi va se créer ce qu'on va appeler plus tard l'armée d'Afrique. C'est-à-dire que tous les généraux, les officiers qui ont fait les guerres napoléoniennes seront aux premières loges des guerres de conquête d'Algérie. Par exemple, un certain nombre d'officiers français de la conquête ont été ceux-là même qui ont livré les guerres les plus dures, notamment en Espagne. C'est le territoire espagnol qui a été un des grands points, un des grands territoires pour la plupart des officiers français de la conquête de l'Algérie qu'on va retrouver 15, 20 ans plus tard dans la conquête coloniale donc, de l'Algérie par la France. Donc il y a la présence de cette armée dans la vie politique intérieure française qu'on va aller projeter et utiliser. Il y a deuxièmement, bien sûr, le fantasme qui existe à cette époque-là, qui correspond aussi à une certaine réalité, d'un trésor de guerre que l'Algérie posséderait, enfin que le Dey d'Alger plus exactement posséderait, et qu'il faudrait, disons, la France étant dans une situation économique à cette époque-là très difficile, dont il faudrait s'emparer. Bon, cette histoire a été très bien racontée dans un livre récent de Pierre Péan, que vous pouvez lire, sur la conquête d'Alger. Comment s'est opérée la conquête d'Alger et quelle était exactement cette espèce de trésor de la Régence. Donc ça, c'est une histoire déjà, c'est une explication, c'est une deuxième explication possible. La troisième explication, je l'ai déjà dit, mais c'est le conflit géopolitique avec la Grande-Bretagne. Ça, c'est très important, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut contrôler les routes maritimes, ça me paraît tout à fait évident. Donc on a au moins trois occasions d'aller vers Alger. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il y a un projet politique achevé de conquête globale de l'Algérie. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, ce qui existe, c'est la possibilité pour la France de s'emparer de la ville d'Alger, c'est-à-dire d'en faire une tête de pont en Méditerranée, pour pouvoir contrôler les routes maritimes, éventuellement mettre la main naturellement sur ce trésor, éventuellement, bien sûr, mais il y a cette volonté simplement d'occuper de manière restreinte. Et le problème, c'est que entre le moment où l'armée française quitte Toulon pour aller vers Alger et le moment où elle arrive à Toulon, où elle va conquérir cette ville, c'est-à-dire grosso modo entre mai 1830 et juillet, 5 juillet 1830, puisque c'est l'arrivée des troupes françaises, Sidi Ferruche, eh bien, entre ces deux dates, qu'est-ce qui s'est passé en France ? Il y a le renversement d'un régime. C'est-à-dire que les hommes qui étaient partis sous un régime avec des directives politiques simples se retrouvent pendant un certain nombre de temps, c'est-à-dire environ pendant un an ou deux ans, privés de directives politiques. C'est-à-dire que c'est le pouvoir. Et donc cette armée, elle va s'autonomiser politiquement par rapport au pouvoir politique parisien. Ça, c'est très important. Ce qu'on va appeler l'armée d'Afrique, quelque part, va décider politiquement. C'est elle qui va. Ce sont ces généraux qui vont s'affronter entre eux. C'est les généraux qui s'affrontent. Les généraux français qui s'affrontent politiquement, indépendamment des décisions prises par Paris. C'est-à-dire loin de Paris, les généraux français s'affrontent sur le devenir de l'Algérie. C'est-à-dire, que faire de ce pays ? Faut-il s'en emparer complètement ? Faut-il aller vers l'Est ? Faut-il aller vers l'Ouest ? Bon, c'est une discussion, naturellement, qui est très politique. Donc, en passant par la Kabylie, puis ensuite aller vers l'Est algérien, on sait que la solution qui a été décidée, c'est d'aller plutôt vers l'Ouest, qui apparaît comme étant un terrain plus propice aux opérations militaires. L'Est étant considéré comme une région beaucoup plus difficile d'accès. En particulier la ville de Constantine, considérée comme très difficile à prendre, parce que bâtie sur un rocher, etc. Donc la décision qui est prise, c'est plutôt politique, de marcher d'abord vers l'Ouest. Et c'est la résistance de l'émir Abdelkader, à partir de 1832, qui va, avec la guerre qui va commencer, provoquer toute une série de débats, de divergences. Et on est toujours frappé, quand on travaille sur cette période, on est toujours frappé de voir à quel point ce sont les officiers qui décident tout seuls. C'est-à-dire que si on veut comprendre quelque chose à cette histoire de l'Algérie dans les années 1832, 1835, 1840, il faut non pas aller consulter les archives classiques du ministère des Affaires étrangères ou les... Non, il faut regarder les lettres, les correspondances, les documents de tous les officiers supérieurs français. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident si, dans le fond, l'Algérie doit être occupée, si les terres des Algériens doivent être prises, comment doit s'opérer la dépossession foncière. Mais en même temps, ce sont les officiers, les militaires, qui font les relevés ethnographiques les plus passionnants. C'est-à-dire qu'on a tout un relevé d'études au niveau du langage, des mœurs, de la religion, de la vie quotidienne, qui sont faits par les officiers français, qui sont très précieux maintenant, pour connaître, disons, la profondeur de la société musulmane des années 1830, 1840, 1850, et vont être mis en place ce qu'on va appeler les bureaux arabes. Les bureaux arabes, c'est l'armée qui décide l'organisation politique et administrative de l'Algérie. Et dans le fond, c'est lorsque Napoléon III arrive au pouvoir, donc quand je dis l'armée, par conséquent, qui décide, vous savez, quand l'armée décide politiquement, alors si vous tombez sur un officier sympathique, ça se passe plutôt sympathiquement, mais si vous tombez sur un type très méchant, ça se passe très très mal, parce qu'il n'y a pas de contrôle politique. Donc, comme il n'y a pas de contrôle politique, c'est laissé au bon vouloir de celui qui mène la guerre, sous la forme la plus cruelle. D'où, effectivement, ces lettres absolument incroyables de Saint-Arnaud, de Bugeaud, du duc d'Aumale, enfin, bon, de toute cette littérature qui est connue maintenant par tous les spécialistes, et qui voit une autonomie de l'armée opérer totalement avec des projets politiques, de celui de Bugeaud étant de déporter, par exemple, la population algérienne dans des îles. Par exemple, en 1845, il a ce projet-là. Il dit, voilà, on va déporter tout le monde, comme ça, on va en finir avec cette histoire de résistance. Bon, c'est Bugeaud qui élabore ce projet. Et il faut attendre, par conséquent, l'arrivée, la révolution de 1848 et l'arrivée ensuite au pouvoir, quelques années après, de Louis-Napoléon Bonaparte, de Napoléon III, pour voir, à partir de 1848, donc c'est très tardif, ça fait 18 ans quand même, donc après la fin du combat de l'émir Abdelkader, il faut attendre 18 ans pour voir Paris reprendre en main politiquement. et essayer d'avoir un projet politique pour l'Algérie. Mais c'est déjà trop tard, parce que la conquête de l'Algérie est finie. Lorsqu'on arrive en 1848, 1850, 1852, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte se rend à Alger en 1860 et qu'il fait son célèbre discours sur le royaume arabe, c'est-à-dire dans le fond, pourquoi ne pas essayer de créer une entité politique dirigée par des chefs arabes à qui on donnerait une très grande autonomie politique. Il se heurte à l'hostilité de l'armée, très violente, qui a le pouvoir politique, en fait, sur place, et des premiers colons qui sont arrivés et qui commencent à s'installer en nombre, de manière considérable, à partir de 1850, 1860. Donc il doit renoncer politiquement à son projet du royaume arabe à partir donc de ce voyage des années 1860, 1865. Ensuite, Napoléon III voudra essayer de donner, par exemple, la nationalité française, à ceux qui en font la demande à travers toute une série de senatus consultes, notamment destinés aux musulmans et aux juifs, qui sont les senatus consultes de 1865, qui prévoient de donner la nationalité française à ceux qui en font la demande pour peu qu'ils renoncent au statut personnel. Alors, loi personnelle, soit la loi mosaïque pour les juifs ou la charia pour les musulmans. Ainsi, ils renoncent au statut personnel, ils ont la possibilité d'accès à la nationalité française. Ça, c'est Napoléon III qui le propose dès 1865. Donc, pour répondre à votre question, j'étais un petit peu long, je m'en excuse, j'ai fait beaucoup de détours. Cette conquête de l'Algérie extrêmement dure et brutale s'est opérée pendant une vingtaine d'années. Elle va véritablement s'achever qu'en 1871, avec la dernière révolte en Kabylie, notamment d'El-Mokrani. Mais cette conquête, dans le fond, on ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas, si on ne situe pas l'importance du militaire par rapport au politique, c'est-à-dire l'installation du commandement militaire, c'est-à-dire du principe d'autorité militaire qui est dans la conduite des affaires du pays, de l'Algérie. Ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, cette histoire militaire, elle durera jusqu'à la guerre d'Algérie. Certains mauvais esprits peuvent dire jusqu'à très loin encore, parce que peut-être jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, moi c'est un mauvais esprit, moi je n'irai pas faire de la politique algérienne, bien évidemment. Donc cette espèce d'empreinte, cette emprise plutôt du militaire dans l'organisation, dans la possession ou dans la dépossession, qu'elle soit de la terre ou que ce soit de l'identité, l'état civil par exemple, l'état civil qui est mis en place, c'est en grande partie les bureaux arabes qui le mettent en place, c'est les officiers qui décident de l'état civil, qui décident l'attribution des noms, etc. etc. Donc ça c'est très important à comprendre, c'est très intéressant et important à comprendre, sinon après c'est une autre histoire qui commence à partir de 1871. Dans le fond, c'est l'histoire de l'Algérie française qui commence, pour de bon. C'est-à-dire une histoire politique de l'Algérie française, avec la présence des Européens qui va continuer à s'accroître. Après 1871, on rentre dans une autre histoire.
Est-ce que vous pouvez revenir sur ces écrivains français qui viennent voir Abdelkader ? Vous savez pas grand-chose.
Non, je sais pas.
Parce que on peut se demander si c'est de l'orientalisme qui les pousse ou si c'est déjà, s'ils auraient un motif de critique du colonialisme. Enfin, est-ce qu'ils anticipent Sartre et Beauvoir à le voir ?
Non. Attention, là, faut faire attention au point de repère historique, parce que là, on en est en 1850. Là, vous me parlez de 1950, c'est-à-dire c'est 100 ans plus tard. Donc là. Il faut nuancer les choses. Non, il y a toute une série la naissance du courant orientaliste français naît dans la conquête de l'Algérie. Elle va suivre, épouser. Alors, les grands noms de l'orientalisme, dans la peinture de Lacroix, Fromentin, donc, qui sont les grands peintres orientalistes, ne font pas de la peinture par souci de dénonciation de la condition des indigènes. Mais ils le font parce qu'ils veulent capturer ou capter la beauté des paysages, la lumière. Enfin, qu'il considère absolument incroyable. Il y a bien sûr ensuite d'autres grands écrivains, contemporains de l'émir Abdelkader, bien sûr, comme Gustave Flaubert, Salammbô, qui va naturellement, toute une série d'écrivains français, de grands écrivains français du XIXe siècle, qui font le voyage, ce qu'ils appellent le voyage vers l'Orient, mais qui en fait est le voyage vers l'Algérie, parce que c'est l'Orient le plus proche, c'est l'Orient à portée de la main qui est le plus immédiat, le plus accessible. Mais toute cette littérature du XIXe siècle, tous ces tableaux, etc., sont pas des dénonciations. Il n'y a pas le courant anticolonial au sens classique du terme, il vise dans un premier temps, non pas à dénoncer le principe de la colonisation, mais il vise à corriger les excès de la colonisation. Le démarrage du courant anticolonial en France, je parle du courant anticolonial en France, eh bien, à partir de Jaurès, pour aller vite, c'est-à-dire le début du XXe siècle, la fin du XIXe, début du XXe siècle, c'est un courant qui vise à la correction des excès et des fautes commises, mais qui ne réfléchit pas encore à l'existence, à la structure même du fait colonial. C'est beaucoup plus tard que cette interrogation va arriver, va surgir.
Oui, M. Stora, vous avez, dans votre exposé, fait en gros deux parties. Je schématise, et vous me pardonnerez, j'espère. La première, c'est le combattant, le résistant. Et puis la deuxième, au fond, c'est le mystique. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et de ce point de vue-là, le retour des cendres, ou plutôt le transfert des cendres d'Abdelkader à Alger, peut poser problème? Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le mysticisme marqué la toute en jeune enfance de l'émir? Après tout, son père Mayeddine était le patron d'une zaouïa, c'était la confrérie la Kadria, si ma mémoire est bonne.
Si,
et donc, dès son plus jeune âge, et par la suite, la formation qu'il a connue à Oran, à Arzeux, était essentiellement sur cette quête spirituelle. Donc, il est peut-être commode pour l'exposé de dire il y a eu, un, le combattant, deux, le mystique. À la vérité, les deux étaient complètement imbriqués l'un dans l'autre. Ils sont constitutifs de la personne de l'émir. J'ajoute enfin, puisque vous avez cité Ferdinand de Lesseps, que l'émir était tout à fait passionné, disons, par les travaux des Saint-Simoniens. Lesseps était, comme vous le savez, un Saint-Simonien. C'est-à-dire ces gens qui réfléchissaient à l'évolution de la société, à la création de richesses et à la répartition des richesses pour le plus grand nombre. Et il y avait ça aussi chez l'émir, c'est-à-dire cet extraordinaire modernisme. Mais à la fin de sa vie, dans son grand djihad, la fin de sa vie, c'était naturellement d'être auprès de son maître à penser, Gilani, c'est-à-dire d'être enterré à Damas. Et c'est là ma question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un peu trahi quand même l'émir en installant ses cendres à Alger, alors que lui, une volonté clairement affirmée par écrit et verbalement, souhaitait rester là où se trouvait l'esprit auquel il se raccrochait, c'est-à-dire à Damas?
Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le problème de la séparation des deux personnages. Bien sûr, c'est un seul personnage, c'est bien évident. Alors, il y a effectivement une commodité de ma part dans le récit, c'est-à-dire d'exposer historiquement les faits de résistance, les faits militaires, etc., puis ensuite la captivité. Mais il y a effectivement un seul individu, c'est un seul personnage qui très très jeune, est initié à la philosophie, très très jeune, est initié au mysticisme, très très jeune, versé dans la religion, enfin dans l'étude des versets coraniques, etc. Ça, c'est évident. Donc, il y a chez lui un seul aspect. Mais le problème que vous soulevez, c'est celui de la reconstruction mémorielle. C'est-à-dire que dans la reconstruction, dans la fabrication a posteriori, après coup, de la trajectoire de l'émir, il y a eu, et j'ai réépousé cette division pour essayer de la combattre, bon, mais vous avez raison d'insister, si je me suis mal fait comprendre, il y a effectivement dans cette reconstruction a posteriori la volonté de la séparation et de l'opposition entre les deux trajectoires, c'est-à-dire celle du guerrier opposée à celle, dans le fond, du mystique vaincu et qui se réfugie dans le mysticisme et qui serait peu intéressant. Et c'est une reconstruction a posteriori. Et on la doit, comme j'ai essayé de le démontrer, à la fois aux nationalistes algériens, mais aussi à l'histoire française. C'est-à-dire que l'histoire coloniale française a essentiellement centré la possibilité de reconstruction mémorielle de l'émir autour de son mysticisme, de sa rationalité, en mettant l'accent sur cet aspect-là, alors que le nationalisme algérien a mis essentiellement l'accent sur le refus de l'occupation étrangère, pour aller vite. Donc il y a eu cette bataille de mémoire. C'est-à-dire que dans les années 1930... C'est pour ça que c'est très important, 1930, parce que c'est l'année du centenaire de la conquête de l'Algérie. Il y a autour de la figure de l'émir Abdelkader une bataille mémorielle. C'est-à-dire que les Français, dans la commémoration de du centenaire de la conquête, valorisent l'image d'un émir rationaliste, c'est-à-dire et mystique, hein, qui fait effectivement la liaison entre Orient et Occident, ce qui est incontestable. Mais ce faisant, ils ne pouvaient pas, bien sûr, mettre en lumière toute la stratégie politique de refus, de non-acceptation, donc de guerre, de l'émir Abdelkader. Et les nationalistes algériens, naturellement, dans ce combat mémoriel, ont forcé le trait, eux aussi. Eux aussi, ils ont forcé le trait. C'est-à-dire qu'ils le font rentrer dans un panthéon mémoriel qui est celui, tout simplement, du refus. Donc il y a une contextualisation de la guerre des mémoires qui permet de comprendre la postérité. Cette guerre des mémoires, elle est d'ailleurs très inégale, parce qu'en 1930, les nationalistes algériens ne disposent pas des mêmes moyens matériels que la France, qui est très puissante, hein, et qui peut déverser, évidemment, un immense flot de propagande autour de l'émir, ce que les nationalistes algériens ne peuvent pas faire. Hein, donc il y a une inégalité aussi. Hein, dans la guerre des mémoires, il y a une asymétrie qui est quand même assez forte. Mais alors, la question que vous soulevez quand même, elle est très importante et intéressante, c'est le problème du transfert. C'est-à-dire, bon, une fois réglée la question de l'unicité, on peut dire, de cette trajectoire, le problème du transfert des cendres, ça obéit à une logique nationaliste, politique. C'est une logique politique nationaliste qui est celle de la réappropriation d'un passé, de la construction naturellement d'un roman national où la figure de l'émir est centrale, elle est décisive. Alors je sais que lorsque les cendres de l'émir sont revenus sont allés à Alger, je crois qu'il y a un certain nombre d'Européens et d'Algériens musulmans, mais qui avaient pour particularité d'être francs-maçons, qui sont allés se recueillir sur la tombe de l'émir et lui ont rendu hommage, c'est-à-dire un hommage qui visait à dissocier l'action de l'émir Abdelkader sur le plan politique, militaire et philosophique de la construction d'un État national, c'est-à-dire de lui rendre un hommage en tant que tel. Et ça, cette sorte de commémoration clandestine, elle a eu lieu dès 1966. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a existé en Algérie en 1966, mais qui n'a pas été rendu public, bien évidemment, qui n'existait pas publiquement. Donc, autour de cette postérité de la figure de l'émir, aujourd'hui, il peut y avoir effectivement cette querelle. Mais à mon sens, je crois que dans la mesure où l'Algérie, depuis un demi-siècle, est devenue un État indépendant, qu'elle a bâti son roman national, qu'elle a ses mythologies, ses personnages héroïques fondateurs, je crois qu'il est pratiquement impossible maintenant de dissocier la trajectoire de l'émir de sa postérité post-indépendantiste. Je pense que c'est plus possible. Je veux dire qu'il y a un lien extrêmement étroit. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous ne pourrez plus jamais rapatrier, je veux dire, les cendres de l'émir vers Damas, qui, comme vous le disiez fort justement, est le lieu spirituel préféré de l'émir Abdelkader. Mais ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps est passé, historique, celui de la décolonisation, celui de la construction d'un État indépendant, et celui, par conséquent, du transfert, de manière, j'allais presque dire, automatique, de ceux qui ont été des figures résistantes à la présence française. Même si ce que vous relevez, naturellement, est tout à fait juste. Ça avait naturellement été relevé dans la biographie qu'avait fait Bruno Etienne sur l'émir Abdelkader.
Oui, bonsoir. Je voudrais simplement ajouter quelques précisions anecdotiques sur... Sur Abdelkader, prisonnier au château de Pau, parce qu'il n'occupait pas un cachot, mais au contraire, au premier étage, j'ai eu l'occasion de visiter les appartements d'Abdelkader. On peut parler d'appartements, des vastes pièces du château au premier étage, avec des vues sur le Gave et sur les Pyrénées. Et l'étage au-dessus était occupé par la Smala. Et si mes souvenirs sont bons, ils étaient assez nombreux, peut-être plus de 100 personnes, je crois. Non, et c'était très certainement très difficile de garder tout ce monde prisonnier. Il recevait également beaucoup de visites, de curieux, mais aussi de lettrés qui étaient fascinés par sa culture et sa conversation, ce qui rejoint ce que disait monsieur sur le mysticisme et l'attrait et la fascination d'Abdelkader. Voilà. Et mes souvenirs, donc c'est ce que vous avez dit, il recevait des visites, mais je croyais aussi qu'il pouvait sortir et qu'il allait faire quelques pas sur le boulevard des Pyrénées, mais peut-être que je me trompe. En tous les cas, il était très difficile de le garder, c'est peut-être pour ça qu'il est parti à Amboise. Je ne sais pas si c'est la raison, parce qu'il restait peu de temps à Pau.
Oui, il est resté peu de temps. C'est une source d'ailleurs de pèlerinage, de visites touristiques.
Oui.
C'est, pour la ville de Pau, c'est très bien. Hein,
oui, oui, il y a des conférences.
Conférences, colloques.
Il y a déjà le château sans Abdelkader, mais non, bien, ça bon, ajoute bon quelque chose. Oui,
non, c'est bon pour l'office du tourisme, tout ça.
De curiosité exotique.
Non, c'est vrai. Non, mais c'est un personnage, de toute façon, qu'on va redécouvrir de plus
très
en plus.
Hein.
C'est un personnage qui est... Bon, c'est normal parce que, pour faire une espèce de, pour terminer là, ce soir, je dirais simplement un mot sur le fait que, bon, c'est un personnage qui s'est effacé du paysage culturel et intellectuel français après l'indépendance de l'Algérie, après 1962. Bon, qui au contraire, bien sûr, est très présent hein, dans le paysage politique algérien, culturel. C'est le grand héros national, bien sûr, algérien. Mais dans l'espace politique et culturel français. L'émir a disparu, c'est-à-dire qu'il est moins connu parmi les nouvelles générations de chercheurs, les nouveaux intellectuels, et de ceux qui en particulier réfléchissent et travaillent sur ce qu'on appelle la religion musulmane, islamique ou autre. C'est un personnage qui n'apparaît pas, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'islam c'est uniquement sa dimension salafiste, guerrière, fondamentaliste, etc., mais en occultant totalement, disons, ce qu'a pu être l'apport de l'islam dans la connaissance philosophique. Or, redécouvrir de l'émir Abdelkader, c'est aussi avoir un autre regard sur l'islam. C'est fondamental dans la société française d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que toute la discussion, la conférence qui est faite ce soir est très importante, parce que dans une situation que nous connaissons en France, où il y a, disons, cette dimension unilatérale de l'islam, où on a le sentiment que c'est une espèce de tout religieux fondamentaliste, eh bien, il y a l'émergence au XIXe siècle d'un autre type de personnage, au contact précisément de l'Occident et dans un intermédiaire, dans une médiation avec l'Orient, qui ouvre sur une connaissance philosophique à la fois rationaliste et mystique, qui va à contre-courant complètement de tous les préjugés qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette religion. C'est fondamental. Donc je crois que là, le fait de revenir à ce personnage est un enjeu, cette fois-ci en France et non plus en Algérie, par rapport à la question précédente, qui est un enjeu mémoriel absolument décisif, absolument important, culturellement important. Voilà, je vous remercie.